au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le prix Nobel de littérature, Saint-Jean Perse.
La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On connaît de la plume des diplomates une quantité d'écrits publics et l'historien fait volontiers son miel des mémoires qu'ils ont rédigées en les passant au fil de la critique. Mais c'est une toute autre provende que l'œuvre de ceux qui sont d'autre part des écrivains. Sans qu'on remonte aux ambassadeurs ou consuls que furent le cardinal de Retz, Chateaubriand ou Stendhal, le XXe siècle propose notamment les noms d'Henri Levet, de Paul Morand, de Jean Giraudoux, de Paul Claudel ou de Romain Gary. Je ne cite que des disparus. Et dans chacun de leurs cas, la curiosité se porte vers la question du commerce que leur œuvre a pu entretenir avec leur expérience diplomatique. Dans ce firmament brille le nom de Saint-Jean Perse, prix Nobel de littérature en 1960, qui fut aussi, sous le nom d'Alexis Léger, important dans l'histoire des années 30 lorsqu'il occupa les fonctions éminentes de secrétaire général du Quai d'Orsay. Nous allons lui consacrer l'émission de ce matin sous l'angle que je viens de dire, en nous demandant ce que cette grande poésie peut nous apprendre à la fois sur les années disparues d'où elle a surgi et sur sa pérennité jusqu'à nous, toute enracinée qu'elle soit en son époque spécifique, dans ses violences, dans ses bouleversements, dans ses espérances, ce qu'elle peut nous apprendre aussi sur son auteur, en son temps, vu d'une autre. Il a voulu affirmer obstinément une séparation stricte entre les deux faces de son existence. Seulement, il est peu probable que cela soit possible. C'est en tout cas ce que nous allons vérifier en compagnie d'Henriette Levillain, professeure émérite à la Sorbonne, Paris 4, spécialiste de littérature comparée. Elle est l'auteur d'une biographie de Saint-Jean Perse qu'elle a fondée sur des décennies de fréquentation de son œuvre. Son admiration ne se mue jamais en complaisance, comme vous allez pouvoir le constater, mais elle y trouve l'aigu d'une lucidité. Et pour commencer, écoutez cet écho de la remise du Grand Prix National des Lettres à Saint-Jean Perse par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, le 10 novembre 1969.
Mon cher ami, lorsque j'étais, après vous d'ailleurs, dans le désert afghan, les fouilleurs qui travaillaient avec moi espéraient chaque jour trouver le quadrige de bronze vert qu'Alexandre, dit-on, avait fait dresser sur le tombeau de Bucéphale. Je pensais alors à Anabase pour l'épopée, pour le cheval, et pour le bronze. Aujourd'hui, vous venez d'achever cet admirable poème où la poésie semble regarder de haut les derniers remous de la turbulence divine. Pour tous les écrivains de ma génération, votre œuvre a incarné la poésie dans ce qu'elle semble porter en elle d'invulnérable.
C'est la poésie elle-même qu'il importe ici d'honorer. La France cartésienne ne lui a pas toujours été très favorable. Aujourd'hui, où l'homme s'ouvre plus complexe à plus de nuit humaine, il est temps de reconnaître, dans toute activité de l'esprit, individuelle ou collective, cette force agissante et concertante qu'est le principe poétique. Poésie, sœur de l'action et mère de toute création, initiatrice en toute science et devancière en toute métaphysique. Elle est l'animatrice du songe des vivants et la gardienne la plus sûre de l'héritage des morts. Qu'elle hante parmi nous le tumulte du siècle, et elle jouera aussi son rôle à notre insu dans cette rénovation humaine où la France est active.
Henriette Levillain, bonjour.
Bonjour.
Vous le retrouvez là, votre grand Saint-Jean Perse. J'ai préféré cet extrait à d'autres qu'on aurait pu emprunter à son discours quelques mois plus tard pour le prix Nobel. Il me paraît là ramassé avec cette idée de la poésie sœur de l'action, quelque chose d'important pour nous, en particulier ce matin.
Oui, c'est très juste. Et puis, c'est un laboratoire du discours du prix Nobel, puisqu'en fait, l'extrait que vous avez choisi se termine par cet hommage à la poésie, avec un grand P majuscule, et que d'ailleurs, le discours du prix Nobel s'appellera dans la Pléiade Poésie. Lorsqu'il le publiera, il s'appellera Poésie. C'est un discours qui fait la synthèse de deux aspects de Saint-Jean de Perse que je trouve particulièrement intéressants. Le premier, c'est « Je suis français ». Là, il n'y a pas d'art s'il n'est pas français. Il y a eu un très bel ouvrage qui a été écrit sur la francité de Saint-Jean de Perse. C'est une notion qui est très complexe parce qu'il est né aux Antilles et que là-bas, le rapport à la France est compliqué, surtout pour cette partie de la société qui est la partie dite béquée. En réalité, à la Guadeloupe, ça ne s'appelle pas des béquets, ça s'appelle des grands français, enfin des... Bon, mais qu'importe.
Cette francité, il aura aussi à l'affirmer dans son exil, puisque à partir de 1940, nous allons le voir,
alors voilà,
il sera amené à vivre très largement aux États-Unis d'Amérique.
Voilà, et qu'il aura du mal d'ailleurs à obtenir les papiers qui lui permettront d'être vraiment libre aux États-Unis. Et donc, il y a cet aspect-là, en exil, comment continuer à être français. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est il n'y a qu'une seule patrie, c'est la langue. C'est la langue française, et celle-là, voilà.
On trouve aussi esquissé cette volonté qu'il a eue toujours de distinguer l'homme et son double. Dans la préface du beau livre que vous consacrez à Saint-Jean de Perse, Henriette Levillain, vous citez une fable de Bornéo que Perse avait mis en exergue et qui consistait en ceci: l'homme libère chaque soir son double, entre guillemets son double, qui, sous la forme très honorable d'un singe, va perpétrer toute la nuit les plus extrêmes et belles entreprises auxquelles le pauvre esclave diurne n'a pas accès. Mais il est interdit en plein jour d'évoquer la moindre liaison entre les deux êtres. Fin de citation. Et pourtant, nous allons construire cette émission, cette réflexion sur la question du lien entre ces deux êtres.
Oui, c'est amusant d'ailleurs de constater que la fin de son œuvre, qu'est-ce qu'il met ? Trêve à tes ruses, singe de Dieu. Donc il est le poète, le singe de Dieu. Et ce double dont vous parlez, effectivement, l'a travaillé tout au long de son existence, et je dirais à tout niveau de son existence. Parce que c'est pas simplement le nom avec nom d'homme public et puis nom de poète. Il y a toutes sortes d'aspects de son œuvre qui sont construits sur ce grand écart entre l'homme privé, l'homme de rêve, l'homme de songe et puis l'homme d'action.
Arrêtons-nous un instant sur ces deux noms, Alexis Léger, Alexis Saint-Léger-Léger, et puis Saint-Jean de Perse. Il a toujours dit qu'il ne se rappelait plus, et est-ce que c'était une coquetterie, je ne sais pas, il ne se rappelait plus pourquoi il avait choisi ce pseudonyme.
Oui, il l'a certainement choisi en toute conscience, mais il n'a jamais voulu nous donner effectivement les secrets, ne serait-ce que parce qu'il y avait, je dirais, toutes sortes de manières de l'interpréter. Alors effectivement, le saint est très important depuis l'origine, Saint-Léger-Léger, parce que beaucoup de personnes pensent déjà qu'il s'appelle Saint-Léger de son origine. Non, il s'appelle tout simplement Léger. Donc cette attribution de cette canonisation, en quelque sorte, est déjà assez étrange. Il faut savoir que l'île de la Guadeloupe est entourée d'îles qui s'appellent Toutes-Saintes. Hein. Je dirais que le monde des saints, il en est très, très familier. Bon, le doublement, d'autre part, ce doublement léger-léger, ça m'a toujours semblé être presque un peu africain. Vous savez qu'il y a dans beaucoup de pays africains, on double les noms, comme cela, les noms propres en particulier.
Il est beaucoup plus atlantique que méditerranéen. Constamment, il a revendiqué ses origines celtiques en laissant plutôt de côté l'héritage gréco-latin.
Oui, ça, c'est un petit peu du songe aussi, parce que...
Je vous ai lu.
En quoi, c'est possible, mais en quoi est-il celte, étant né aux Antilles? Alors, bien sûr, il aime l'Atlantique, mais l'Atlantique n'est pas proprement celte. C'est une façon assez fantasmatique d'imaginer une généalogie qui est celle des poètes de celtes, des chevaux. Vous savez sans doute que le cheval est l'emblème des Celtes et le petit Alexis Léger déjà a une passion pour son cheval qu'il appellera Alan, alors que sa mère appelait Léger Alan, ce qui fait évidemment là encore qu'on a ce système du double. Quant à Saint-Jean de Perse, bon, il le prend à partir du moment où il le publie à Anabase, c'est-à-dire au retour de Chine.
Anabas, c'est le nom de grande œuvre de Xénophon.
De Xénophon.
L'histoire des 10 000 qui reviennent de Perse à grande difficulté vers la Méditerranée.
Comme vous avez dit, oui. De Perse.
Mais c'est donc, pour ça que je le cite.
Voilà, exactement. Donc il y a quelque chose là derrière. Et d'autre part, ça a été pour lui la coupure nette entre la vie publique et la vie de poète. Parce que dans Saint-Léger-Léger, on pouvait encore trouver Léger. Donc là, il a voulu vraiment qu'il y ait cette coupure dont vous parlez, qui est un peu le mystère de sa vie, car beaucoup d'écrivains diplomates n'ont pas eu besoin de se couper complètement en deux de cette façon-là.
Ce qui conduit à une réflexion sur le vrai et le faux, quand il a publié, peu de temps avant sa mort, un volume de la Pléiade qu'il a entièrement construit lui-même. On a beaucoup critiqué la réécriture d'un certain nombre de lettres, cette mise en scène que métaphoriquement représente aussi le fait qu'il a reconstruit son écriture, ce qui est assez rare.
Oui, alors moi je crois que c'est tout de même moins sophistiqué que ce que les gens ont voulu voir pour ce qui est de l'écriture. Il est vrai, si on va dans les archives et qu'on voit l'écriture d'avant, l'écriture ce qu'il appelle rééduquée, que c'est absolument illisible. Et dans les concours, il faut être lisible. D'autre part, moi qui ai fait faire une étude graphologique de son écriture rééduquée, la personne qui a fait cette analyse m'a dit « c'est la même écriture mais à l'envers ». Donc ce n'est pas une écriture tout autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas modifié sa personnalité en rééduquant son écriture.
Mais alors quid de la Pléiade sur la dialectique du vrai et du faux ?
Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a été sollicité ou qu'il a sollicité Gallimard pour la Pléiade, Gaston Gallimard pour la Pléiade, il pensait qu'il n'y aurait que son œuvre poétique. Ça lui paraissait bien. Seulement Gallimard lui a dit « Mais ça ne fait pas une Pléiade, ça. Nous allons faire combien de pages avec ça ?» Et donc là, il a été très ennuyé parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait falloir augmenter et du coup apporter d'autres éléments, d'autres documents, d'autres archives. C'est là qu'il a travaillé, mais comme un fou. Hein. Il s'est épuisé d'ailleurs à la Pléiade pour récupérer des lettres qu'il n'avait pas, bien entendu, puisqu'il les avait envoyées à des destinataires, et pour ramasser tous les témoignages, les documents, les hommages qu'il avait.
Et du coup, il a fait ressurgir le diplomate à côté du poète. Alors, et il a lui-même enjambé cette différence qu'il avait mis tant de soin à créer.
Exactement, seulement, évidemment, en sélectionnant, en triant, en aménageant les événements pour qu'ils soient, je dirais, à son honneur.
Il a réécrit des lettres, vraiment ?
Il a bien entendu réécrit des lettres, ou même écrit des lettres.
Oui, il y a le cas fameux de cette lettre où il aurait prévu que la Chine deviendrait communiste en 1917.
Ça, c'est un extrait de lettre à Berthelot dont on n'a jamais vu d'ailleurs le manuscrit, dans lequel effectivement, vous avez raison, il est totalement prophétique, alors que ce n'est pas possible à l'époque. Les lettres à sa mère dont vous allez peut-être parler sont un des plus grands mystères qui soient, parce que ce sont des lettres magnifiques, absolument magnifiques, dont on n'a jamais retrouvé les autographes. Et bon, du coup, les personnes qui effectivement n'aiment pas beaucoup Saint-Jean de Perse ont beaucoup insisté sur le fait que écrire des faux de cette façon-là dans un monument comme la Pléiade était absolument scandaleux. En réalité, enfin, moi qui le connais vraiment bien, j'ai vraiment le sentiment qu'il a plutôt fait du bricolage. C'est-à-dire qu'il y avait des lettres à sa mère. Il ne peut pas, c'est pas pensable que ce garçon qui aimait énormément sa mère n'ait pas, pendant tout ce long séjour en Chine, écrit à sa mère. Ce n'est pas pensable.
Jeune diplomate.
Ce qu'il y a, certainement, c'est qu'il écrivait beaucoup moins que ce qu'elle aurait aimé. Et elle se plaint, d'ailleurs, de ses silences. Mais quand on connaît bien la phrase de Saint-Jean de Perse et la fraîcheur, surtout, de son style, on voit très bien qu'il y a des lettres où c'est lui. Et c'est lui à l'époque. En revanche, il a fait du bricolage. C'est-à-dire qu'il raconte à sa mère, qui n'était pas du tout l'oreille, ou en tout cas l'œil pour lire des choses comme cela, des expériences politiques sur la Chine qui ne peuvent absolument pas l'avoir intéressé. Et ceux qui ont bien étudié, comme Catherine Maillot, justement, les lettres, ont trouvé des passages qui étaient carrément recollés du journal de Pékin. Donc, il est clair qu'il a bricolé des lettres pour qu'elles paraissent, dans la Pléiade, je dirais, plus dignes de son statut de diplomate.
Nous avons entendu un dialogue avec André Malraux. On ne peut pas dire qu'à cet égard, Malraux soit aussi un parangon de la vérité toujours respectée.
Tout à fait. Et quelquefois, je pense que quand on s'invente un personnage, il est plus intéressant que celui qui a été en vérité.
Nous allons rejoindre bientôt Saint-Jean de Perse diplomate, mais auparavant, restons un instant dans ce Nil à la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, et écoutons le poète. Pour fêter une enfance, c'est un extrait d'Éloge qui est lu par Jacqueline Morane en 1959, Éloge de Saint-Jean de Perse, 1911.
Pour fêter une enfance, et les servantes de ma mère, grandes filles luisantes, et nos paupières fabuleuses, ô clarté, ô faveur, appelant toute chose, je récitais qu'elle était grande. Appelant toute bête, qu'elle était belle et bonne. Ô mes plus grandes fleurs voraces, parmi la feuille rouge, à dévorer tous mes plus beaux insectes verts. Les bouquets au jardin sentaient le cimetière de famille, et une très petite sœur était morte. J'avais eu, qui sent bon, son cercueil d'acajou entre les glaces de trois chambres. Et il ne fallait pas tuer l'oiseau-mouche d'un caillou. Mais la terre se courbait dans nos jeux, comme fait la servante, celle qui a droit à une chaise si l'on se tient dans la maison. Végétale ferveur, ô clarté, ô faveur. Et puis ces mouches, cette sorte de mouche, vers le dernier étage du jardin, qui était comme si la lumière eût chanté. Je me souviens du sel. Je me souviens du sel que la nourrice jaune dut essuyer à l'angle de mes yeux. Le sorcier noir sentenciait à l'office. Le monde est comme une pirogue qui, tournant et tournant, ne sait plus si le vent voulait rire ou pleurer. Et aussitôt mes yeux tâchaient à peindre un monde balancé entre des eaux brillantes. Connaissait le mât lisse des fûts, la une sous les feuilles, et les guises et les vergues, les haubans de lianes, où, trop longues, les fleurs s'achevaient en des cris de perruche.
Henriette Levillain, Saint-Jean de Perse, Alexis Léger quitte la Guadeloupe à 12 ans, mais il en est marqué, visiblement, pour toujours.
Il en est absolument marqué pour toujours. Il a voulu y retourner. Et puis, d'abord, il n'a plus pu, faute de moyens. Il raconte d'ailleurs à sa grand-mère qu'il écrit de Pau, où il s'est exilé avec sa famille, ou en tout cas, ils se sont installés en métropole avec sa famille. Et il écrit à sa grand-mère que s'il gagne au loto, il va s'acheter un billet pour traverser l'Atlantique. Donc, il a voulu y retourner, il n'a pas pu y retourner, et après, il n'a plus voulu y retourner.
Il y a un épisode frappant. Métaphoriquement, c'est l'histoire des livres de son père qui se trouve noyé dans l'eau et qui, quand il ouvre la malle, ne se constitue plus qu'une masse pourrie.
Ce sont les fleurs du mal de Baudelaire. Ça encore, je dirais que c'est ou bien totalement faux, ou bien à moitié faux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr d'autres choses dans ses caisses, mais il ne retient que les fleurs du mal dans l'édition de Poulet-Malassi. C'est important parce que Baudelaire est certainement un de ses grands ascendants, comme dirait René Char. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'à partir du moment où il n'a plus pu y retourner et qu'il s'en est rendu compte, il a écrit ses poèmes qui, pour moi, sont éblouissants. Éblouissants, et personne d'autre qui a habité à l'époque les îles, qui appartenaient à cette société blanche, n'a écrit de cette façon. C'est pour cela, d'ailleurs, que Valérie Larbeau l'a remarqué entre tous les poètes des îles, parce qu'en fait, il n'écrivait pas de cette façon un peu nostalgique et fadasse dont les poètes des îles de la société blanche écrivaient. Il est totalement singulier.
Et accueilli très vite, finalement, même à Paris, comme un poète prometteur.
Il est accueilli comme un poète prometteur par
Larbeau, Francis
cet ensemble d'écrivains autour de la NRF. Et de Bordeaux remonte une réputation d'un jeune homme singulier, pas facile, et en même temps, certainement, d'une précocité poétique remarquable. C'est Jacques Rivière qui va être surtout son canal vers Gide, qui va le conduire vers la NRF. D'où, effectivement, éloge, mais éloge qui n'est publié globalement qu'en 1911, mais le poème dont vous avez lu ce très bel extrait est publié dans la NRF bien avant 1911. Donc il a commencé d'une façon très précoce. Alors il met des dates dont on pense qu'elles ne sont pas tout à fait exactes en bas de ses manuscrits, parce qu'en fait il a voulu être à l'âge de Rimbaud, le poète aussi précoce que Rimbaud. Mais il était quand même très jeune, très très jeune.
Sur quoi son destin bifurque, puisqu'il va vers la diplomatie?
Il a beaucoup hésité. Il n'avait pas d'argent. La famille Léger est une famille qui n'a pas d'argent.
Et à l'époque, il fallait de l'argent pour être diplomate, voilà. Pour soutenir alors, son train de vie.
Voilà. Il fallait en même temps, s'il voulait écrire, car c'était vraiment certainement une vocation très précoce, il fallait qu'il ait un métier. Et il a hésité sur le métier. Et il a même pensé qu'il serait une sorte de grand colon en Amérique latine, où il aurait des terres et il s'occuperait de son élevage. Parce que, il faut bien voir qu'il aime l'ordre colonial Léger. Ça ne paraît peut-être pas très actuel aujourd'hui, mais je crois que derrière cet ordre colonial, il y avait, comme il le dit très bien dans « Pour fêter une enfance », cette belle idée, sinon l'enfance, qu'y avait-il de plus? Il y avait plus d'ordre. Il y avait plus d'ordre. Donc il aime, et d'autres l'ont bien montré dans son œuvre, il aime l'ordre, il aime qu'il y ait des catégories bien séparées les unes des autres, et il pense que le désordre, c'est justement le mélange. Donc il a pensé à ce métier-là. Puis il a rencontré Claudel. Et Claudel s'est très vite rendu compte que c'était un jeune homme très doué, très précoce, et comme il était lui aussi poète et diplomate, il s'est dit, après tout, pourquoi ne pas effectivement l'encourager à aller vers la diplomatie. Léger lui écrit des lettres pour lui demander comment faire pour être recommandé, parce qu'il savait très bien qu'il y avait un réseau quand on était diplomate. Et Claudel va suggérer à Berthelot de le rencontrer. Et donc les choses vont s'articuler de cette façon-là, mais il va beaucoup hésiter à passer le concours.
Il faut rappeler que Berthelot, c'est le grand personnage, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui a créé en 1916, pendant la guerre, une maison de la presse pour la propagande à l'étranger, où il fait se réfugier un certain nombre d'écrivains, de poètes, qu'il estime et qu'il veut en fait protéger de la mort des tranchées, dont Cocteau, dont Alexis Léger. Et c'est là qu'il choisit sa carrière diplomatique, qui va le conduire très vite dans cette Chine que vous évoquiez tout à l'heure, Henriette Levillain. Écoutez donc cette lettre qu'il adresse à sa mère, le 2 août 1917, vous avez déjà dit qu'elle a probablement été revue, recréée. C'est un extrait des Samedis de France Culture du 1er novembre 1975.
Pékin, 2 août 1917. Mère chérie, je vous écris du fond d'un petit temple bouddhiste sur une éminence rocheuse au nord-ouest de Pékin, où j'ai, pour quelques jours, trouvé refuge contre la fatigue et contre un redoutable été. À mes pieds, des vallées inondées par les dernières grandes pluies. À hauteur de mon front, déjà, les lourdes premières chaînes qu'amorce l'élévation mongole. Un homme à cheval m'apporte tous les deux jours, avec quelques provisions, des nouvelles, et s'il le faut, du travail de la légation. J'ai Alan avec moi et dois moi-même me tenir prêt à sauter en selle au premier signal de mon ministre, car tout demeure imprévisible en cette période de grande instabilité politique. Je ne comprends pas le langage ni la mentalité de ces bonzes qui m'ont cédé ici à peu de prix, pour tout l'été, de la façon la plus cérémonieuse, la part la plus sainte et la plus fraîche de leur sanctuaire, avec ses oratoires délabrés mais non désaffectés, au plus haut du site. Des débris de statues peintes sont, avec l'ordure ménagère jetée par-dessus bord à l'abrupte falaise. Mais mon lit de camp demeure dressé, toute baise ouverte sur la nuit pure, au bas de l'estrade des dieux. Toute une théogonie grimaçante et gesticulante, et qui comprend, m'explique-t-on, parmi les personnages mineurs, une déesse des accouchements depuis longtemps désertée par la population rurale. La paix ici est grande pour l'esprit, la marge incommensurable, et les nuits parfaitement reposantes loin du bruit de la ville chinoise. On entendrait se consumer le temps, ce temps dont la dissipation en Chine semble plus lente qu'ailleurs. Transposition et transgression ici sont telles que j'y serais parfois tenté de prendre la plume contre toutes mes vieilles résolutions.
Prendre sa plume contre toutes ses vieilles résolutions, Henriette Levillain.
Il hésite à écrire dans la mesure où il pense que c'est une haute vocation et qu'il faut se dépouiller de son passé antillais. Donc sur quoi écrire? C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle il a demandé à partir vers le Grand Est pour oublier le Grand Ouest. Donc la rupture, c'est après éloge. Quoi écrire qui ne correspondent plus jamais à la nostalgie des îles. Mais la réalité, c'est que la résolution, c'est vraiment comment être tout à fait autre que ce que j'ai été. Et d'où le pseudonyme, Sajan de Perse. Comment radicalement me couper de mes racines antillaises. Ce qui expliquerait un petit peu, d'ailleurs, la mésentente qu'il a avec les Antilles et avec les Guadeloupéens. Vous savez que les Guadeloupéens ont été très très fâchés qu'ils ne soient jamais revenus sur l'île, alors qu'il aurait pu maintes fois, lorsqu'il était bien sûr diplomate, le faire. C'est vraiment une volonté de coupure. Je pense que surtout, quand on revient sur un endroit que l'on a tellement aimé, la souffrance est trop grande. La souffrance est trop grande. Il savait d'autre part qu'il trouverait toute une société qui n'avait pas évolué du tout, alors que lui, il avait fait, bien entendu. Donc c'est cette coupure. La grande résolution, elle sera après, quand il sera vraiment au Quai d'Orsay, et que revenu au Quai d'Orsay, rapportant certainement presque achevé à Nabaz, amitié du prince, là, il se dira non, la fonction est trop importante au Quai d'Orsay pour que je continue.
Et c'est un diplomate très ambitieux qui s'appuie sur l'amitié de Philippe Berthelot pour accéder en quelques années aux plus hautes fonctions, c'est-à-dire à celle de secrétaire général du Quai d'Orsay, après précisément Berthelot, qui a rencontré quelques turbulences dans sa carrière. Méchantes langues qui disent qu'il l'a quelque peu poussé, est-ce que c'est vrai?
Voilà, alors il faut reconnaître qu'il a profité de la démission de Philippe Berthelot pour se pousser. Bon, mais ça, quelqu'un d'ambitieux, c'est aussi, je dirais, profiter des occasions.
Si vous le dites.
Mais il ne l'a pas rendu malade. Berthelot était extrêmement malade et a dû donc démissionner. La famille Berthelot, effectivement, n'a pas beaucoup d'estime pour Léger, considérant qu'il l'a poussé vers la sortie. Mais les turbulences, comme vous le dites, qui ont concerné Berthelot, et qui ont beaucoup ému, d'ailleurs, Briand, ont été l'occasion merveilleuse pour quelqu'un de très ambitieux, j'aurais presque envie de dire, d'ailleurs, arriviste.
Vous parlez de Briand, ministre des Affaires étrangères à maintes reprises dans ses années 20 et porteur d'une nouvelle idée des relations internationales, fin de la guerre, réconciliation avec l'Allemagne, etc. Auprès de lui, Briand va jouer un rôle essentiel comme son directeur de cabinet et il continuera jusqu'au bout à lui porter une dévotion très, très fidèle. Il en parle longtemps après pour le 10e anniversaire de la mort de Briand en 1942 dans son exil américain de la façon que voici.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Une large humanité, jointe à l'individualisme secret de tous les créateurs, un sens égal de la solitude et de la foule, un mélange de rêverie et d'action, où l'audace du songe sollicitait toujours l'épreuve du bon sens, une promptitude dans l'entreprise et la riposte, qui n'avait d'égal que la nonchalance à exploiter le succès. Une persévérance dans la lutte qui n'avait d'égal que le détachement personnel. Pour l'esprit, toutes les richesses intuitives de l'imagination passées au filtre de la raison, tous les plus beaux mouvements du cœur soumis au goût parfait de la mesure, un discernement naturel et une justesse de ton autorisant toujours toute liberté d'improvisation, en résumé, toute l'aristocratie foncière d'un être de haute frondaison nourrie aux fortes racines de l'arbre populaire, tel fut essentiellement Briand, homme de France et curieux homme au service de la paix.
C'était une lecture de Michel Bouquet dans les Samedis de France Culture, le 1er novembre 1975. En écoutant cet extrait, on ne peut pas se déprendre tout à fait de l'impression que Saint-Jean-Perse, Alexis Léger plutôt, se voit en Briand. Est-ce que oui. Je me trompe, Henriette Lévillain?
Non, certainement. D'ailleurs, tous les hommages que l'on rend lorsqu'on est un grand écrivain sont des hommages qui sont en même temps des miroirs. Donc, ce n'est pas étonnant que lorsqu'il rend hommage à Salvador Madariaga, cet homme d'État espagnol, c'est pareil. C'est l'homme d'État qui est en même temps le visionnaire. Et ce qu'il aime chez Briand, c'est précisément que cet homme qui a été le pèlerin de la paix, le pèlerin des alliances, dans cette période tellement difficile, qui n'arrêtait pas d'aller de Paris à la SDN, de Paris à Genève et aller-retour, était à la fois été l'homme de la vision d'avenir, parce que il fallait évidemment compenser cette époque abominable et créer des retours d'alliance. Et l'alliance est un mot d'ailleurs capital hein, dans le vocabulaire de Saint-Jean-de-Perse. Il est, je dirais, l'alliance politique et l'alliance poétique. Hein. Les deux sont associés. Donc cet homme d'alliance et qui a vraiment labouré la terre de France. Et en même temps, c'est un homme de la parole. Il admirait chez Briand cette voix de violoncelle, comme on l'a dit, et cette faculté, comme il le dit, et c'est très beau, d'improvisation. Saint-Jean-de-Perse n'est pas un homme d'improvisation. Donc je dirais que c'est le meilleur du chef qu'il voit en Briand. Ce que me disait un secrétaire général que j'ai rencontré, d'ailleurs, ce qui est très, très étrange, c'est que Léger a accompagné Briand partout. Il me disait, en termes de sécurité, jamais un secrétaire général ne devrait accompagner son ministre. Parce que ça, dans ce cas-là, c'est deux têtes qui, s'il arrive un accident, c'est deux têtes qui disparaissent.
Et, il en va autrement probablement à l'époque.
Ah, il en va certainement autrement à l'époque.
Il est ce qu'on appellerait aujourd'hui la plume de Briand, largement. Briand n'aimait pas écrire. Saint-Jean-de-Perse, au contraire.
Mais alors,
Alexis
par contre,
Léger, au contraire.
Briand sabre les discours de Saint-Jean-de-Perse, ce qu'il ne dit jamais, bien entendu. J'ai été frappé dans les archives du Quai d'Orsay de retrouver le mémorandum et d'autres discours qu'il a fait avec l'écriture de Briand dans la marge en disant trop de phrases, par exemple.
Vous donnez des exemples, en effet, qui sont frappants. Sur l'Europe, projet européen, il accompagne ce qu'il peut y avoir de visionnaire et en même temps de flou, presque de contradictoire dans la pensée de Briand, qui parlait, je crois que c'est de la plume d'Alexis Léger, d'une sorte de lien fédéral sans vouloir toucher à la souveraineté d'aucune nation. On appellerait volontiers ça un oxymore, non?
C'est presque un oxymore, absolument. Et d'ailleurs, ça n'a pas tenu, c'est...
La crise de 1929 n'était pas le fait de Briand ni d'Alexis Léger, mais enfin, il reste en effet que ce fut une impasse.
Ce fut une impasse et le problème, c'est que Léger est resté briandiste, au-delà de l'époque de Briand.
Alors comment s'est-il comporté dans son poste de premier haut fonctionnaire du Quai d'Orsay dans les années 30, depuis la remilitarisation de la rive gauche du Rhin, enfin la montée de Hitler jusqu'à Munich? Il est à Munich avec Daladier.
Il est à Munich avec Daladier parce que Bonnet n'a pas voulu y aller. Parce que
Bonnet, c'est le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet.
Le ministre des Affaires étrangères n'a pas voulu y aller. Alors là aussi, ça lui est évidemment reproché. On l'a considéré comme munichois. En réalité, c'est un second. Et Léger n'a jamais été qu'un second. Et je crois qu'on lui prête beaucoup trop d'importance d'un point de vue diplomatique. Un second, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute son premier. Et il n'a jamais été qu'un obéissant de ce qui se passait, en percevant évidemment les impasses, les difficultés. À Munich, il n'est pas à l'aise d'ailleurs, surtout que Hitler, soi-disant, lui aurait dit, l'aurait bousculé en l'appelant nègre. C'est pas sûr, ça.
Qu'est-ce que c'est que ce petit Martiniquais?
Voilà, ce petit Martiniquais, c'est pas sûr, ça. Je crois que c'est aussi une réinvention, ou des journalistes, ou de lui-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que malheureusement, en termes de diplomatie, Léger n'est pas un visionnaire. Et ce qu'il a aimé en Briand, c'est qu'il a cru à la vision de Briand. Mais la vision de Briand n'a pas tenu devant les secousses de l'Allemagne nazie. Et malheureusement, Léger, comme beaucoup de diplomates du ministère des Affaires étrangères, n'ont pas du tout perçu le danger du nazisme à temps.
Il reste que, par la suite, à partir de 1940, cette période restera pour Alexis Léger une période lumineuse, dont il ne cessera pas de nourrir la nostalgie, car il faut savoir que dans les mouvements de 1940, dans le drame de 1940, de la défaite, Paul Reynaud, président du Conseil, révoque Alexis Léger, le mot n'est pas trop fort, Alexis Léger, secrétaire général du Quai d'Orsay, et que du coup il le jette dans une période de déréliction et de trouble qui va le conduire aux États-Unis d'Amérique.
D'abord en Angleterre, et d'Angleterre, il va repartir pour les États-Unis dans des conditions assez difficiles. Hein. Je crois qu'il avait d'abord peu d'argent, peu de soutien, et que heureusement, du Canada où il est arrivé, et après vers New York, il a été accueilli par des dames qui avait entendu parler de lui, et tout ceci commence en 1920, les années 30, avec la princesse de Bassiano, qui dirigeait Commerce, et dont la demi-sœur, Catherine Chapin, qui est devenue Catherine Biddle, avait une grosse influence littéraire. Et donc c'est elle qui l'a accueilli et qui lui a permis que ce séjour soit moins horrible que ce qu'il aurait pu être.
En dépit de tous les périls, les effets parfois pernicieux de l'exil, je songeais en lisant le chapitre Henriette Levillain que dans votre biographie de Saint-Jean-de-Perse vous consacrez à ce temps fondamental de l'exil, je songeais aux mots de Tocqueville que De Gaulle, lui-même en captivité allemande pendant la Première Guerre mondiale, avait relevé dans ses carnets, le mal de l'exil qui n'apprend rien et qui immobilise l'esprit. C'est trop dur pour Alexis Léger, pour Saint-Jean-de-Perse?
Je crois que...
Qui n'apprend rien et qui immobilise l'esprit.
Je crois que sa vocation poétique avait besoin de l'exil. Au fond, il n'a jamais écrit, sauf le dernier des poèmes chroniques, en France. Il a écrit Anabas en Chine, où d'une certaine façon, il se sentait exilé, parce que la civilisation chinoise, il s'est senti très étranger à elle. Ensuite, il arrête d'écrire complètement pendant l'entre-deux-guerres, ou du moins s'il écrit, il ne publie plus rien, car on ne saura jamais si la fameuse malle qui a été emportée par la Gestapo, c'est vrai, c'est faux, on ne l'a jamais retrouvée. Mais de toute façon, il ne publie plus rien, et ensuite, il commence à écrire, après un temps quand même de... très difficile. Je pense qu'il a d'ailleurs été certainement dans une sorte de dépression au début à New York. Et il commence à écrire en 1941. Donc, le premier poème, d'ailleurs, s'appelle Exil. Et c'est Archibald MacLeish qui, alors qu'il était lui-même employé à la librairie du Congrès, va obtenir qu'il soit publié aux États-Unis.
Donc, et obtenir qu'il ait une occupation à la librairie du Congrès qui lui permet de survivre.
Oui, mais qui était subventionné par, en grande partie par Mrs. Biddle. C'est-à-dire que son salaire, c'était pas la librairie du Congrès, mais c'était des mécènes qui le payaient.
C'est Archibald MacLeish qui lui tend une main secourable.
Bien sûr, parce qu'il était poète aussi.
Cette lettre que je vais vous donner à entendre. C'est une lecture de Pierre Constant sur France Culture dans les samedis de France Culture de Pierre Auster, le 25 octobre 1975. Une lettre qui est datée du 23 décembre 1941. Il y parle de la France.
De la France, rien à dire. Elle est moi-même et tout moi-même. Elle est pour moi l'espèce sainte et la seule sous laquelle je puisse concevoir de communier avec rien d'essentiel en ce monde. Même si je n'étais pas un animal essentiellement français, une argile essentiellement française, et mon dernier souffle comme le premier sera chimiquement français, la langue française serait encore pour moi la seule patrie imaginable, l'asile et l'antre par excellence, l'armure et l'arme par excellence, le seul lieu géométrique où je puisse me tenir en ce monde pour y rien comprendre, y rien vouloir ou renoncer.
Alors,
Oui. Parce que déjà la phrase de Léger, même quand il écrit à un correspondant, à un particulier, je trouve, est tellement bien rythmée qu'elle vous entraîne. Et puis cette idée du chimiquement français, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, je crois, est capitale, parce que même en exil, il reste français. Alors, bien sûr, il n'a pas participé, et ça a beaucoup étonné, un peu scandalisé, au mouvement des Français en exil, qui, eux, avaient essayé, justement, de se rendre solidaires de ce qui se passait en France. Bien sûr, les Français de New York, qui essayaient de trouver une voie qui ne soit pas, bien entendu, celle de Pétain, et qui soit... peut-être pas celle de De Gaulle, c'est ça qui rendait les choses compliquées.
Arrêtons-nous sur ce point un instant. Henriette Levillain, ses relations avec De Gaulle ont beaucoup compté dans l'histoire du diplomate, ou plutôt du fait qu'il ait quitté définitivement la diplomatie, non sans chagrin, et peut-être aussi du poète. Il rejette l'appel de De Gaulle qui lui offre de le rejoindre, de le soutenir de son prestige. Il considère que De Gaulle, c'est un militaire, qui doit rester un militaire, louable en tant que tel, mais qui ne doit pas prétendre à la moindre représentativité politique.
C'est parfaitement bien résumé. Je ne sais pas très bien quoi dire d'autre. Parce que, effectivement, la lettre est respectueuse hein, qu'il envoie à De Gaulle pour lui dire que non, il refuse de le rejoindre à Londres, qui sera suivie d'ailleurs d'autres lettres. Parce que son ami Istel rapporte de Londres une nouvelle. Lettre de De Gaulle et il répétera son refus. Pierre de Chevigné va passer par New York, lui redemander encore. Donc De Gaulle va le faire à plusieurs reprises. Mais vous avez bien entendu que De Gaulle n'a pas appelé les diplomates au début et que les diplomates ont été très très étonnés et froissés d'ailleurs de ce manque d'intérêt pour les diplomates.
Et beaucoup l'ont rejoint après, Léon Noël, Opnaud, etc.
Alors, beaucoup l'ont rejoint après, bien entendu, Massigli et les autres.
Saint-Jean-Père, enfin, Alexis Léger va plus loin, puisqu'il soutient Giraud et même à un moment donné Végan. Et la grande question de savoir s'il a pesé contre De Gaulle et la France libre dans l'esprit de Roosevelt et de ses collaborateurs, Cordell Hull, le ministre des Affaires étrangères américain, etc., secrétaire d'État.
Alors, je dirais qu'il a voulu peser. Est-ce qu'il a pesé, en réalité?
Vous dites dans votre livre, cela m'a un peu surpris, que c'est en partie une légende.
Oui, parce que je pense que Roosevelt, d'abord, ne l'a jamais directement vu pour lui parler de choses importantes.
C'était il y a des lettres qui sont très banales. Oui.
Très banales. C'était toujours des intermédiaires. Et il y a une lettre que l'on a sortie il y a très peu de temps de Sumner Welles, qui... envoie un long message à Roosevelt en lui expliquant qu'il a eu un long entretien avec Léger qui lui explique que De Gaulle s'appuie entièrement sur la Russie alors qu'il il a une grande détestation des États-Unis. Bon, donc il y avait tout pour effectivement faire que Roosevelt accueille la réflexion, les observations de Léger.
Sumner Welles était un très proche collaborateur de Roosevelt que celui-ci avait envoyé dès 1940 faire la tournée des dirigeants français pour tâcher de comprendre comment la situation évoluait avant la débâcle.
Exactement. Mais pour moi, Roosevelt, il n'a pas besoin de Léger pour savoir ce qu'il veut faire. Je pense que d'ailleurs les relations difficiles qu'il a eues avec Churchill étaient bien plus importantes à ses yeux que les relations qu'il pourrait avoir avec la France au travers de Léger. Donc je pense que oui, il a voulu avoir une grande influence. Mais je ne suis pas convaincue que Roosevelt, qui se méfiait déjà énormément de De Gaulle, parce que Churchill aussi s'en méfiait. De Gaulle n'était pas vraiment persona grata. Hein. Donc je crois que Léger n'a fait qu'accentuer l'idée que De Gaulle allait sans doute être le dictateur. Et pendant les fameux 6 mois où De Gaulle voulait évidemment prendre la direction du gouvernement en France, il fallait à ses yeux, aux yeux de Roosevelt, que ce soit les alliés et non pas De Gaulle.
Il y avait un autre personnage en exil à New York qui s'appelait Henri de Kérélis, qui a fait un livre qui s'intitulait précisément « De Gaulle, dictateur ». Quoi qu'il en soit, même si c'est une idée en partie fausse, il reste que De Gaulle a été pour sa part persuadé que Léger a joué un rôle très, très néfaste dans la difficulté de ses rapports avec le président américain et qu'il ne lui a jamais pardonné. Lorsqu'il est venu en visite comme président de la République française à Washington, et il l'a fait rayer des invités. Et lorsque Alexis Léger a été prix Nobel, De Gaulle n'a pas bougé.
Il n'a pas envoyé de message, ni l'Académie française. Personne n'a envoyé de message. D'où ce discours de Malraux qui est très intéressant, parce qu'en fait, c'est la réhabilitation 59. Et grâce à Malraux uniquement.
Mais c'est avant le prix Nobel, oui.
Avant le prix Nobel. Mais il savait qu'il aurait le prix
Malraux
Nobel.
Malraux, qui nous le rappelons, ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle.
Exactement. Et Malraux, il l'avait rencontré quand il était venu aux États-Unis. Et il a senti le grand homme, puisqu'il était à la fois homme politique et écrivain. Ce qui, pour lui, est la combinaison absolument idéale.
Vous lui avez rendu visite, Henriette Levillain, au Vigneault, puisqu'à partir des années 50, Saint-Jean-Père se partage son temps entre Washington et la presqu'île de Gien, en face des îles d'Or. Vous lui avez rendu visite et vous avez trouvé le poète ou l'homme politique, le diplomate quelque peu frustré?
Alors, il ne revient en France qu'en 58.
Vous le voyez le 3 février 1971.
Voilà. Et donc, effectivement, après beaucoup de tentatives pour aller le rencontrer, parce qu'il était très, très difficile hein, à rencontrer, et que sa femme faisait, Dorothée Léger, faisait barrage. Elle était une épouse très docile et elle faisait en sorte que personne ne vienne le voir. Donc, effectivement, je suis allée le rencontrer et je préparais à ce moment-là ma première thèse. J'avais plein de questions à lui poser, j'avais fait toute une liste. Très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine et que je pouvais la mettre dans mon sac, si tant est qu'il y avait un sac. Et il a tenu un discours tout seul, que j'ai trouvé splendide. Il m'a beaucoup ému sur...
Il a parlé de Pindare, nous sommes des étincelles d'un tout que nous cherchons à revoir.
Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, ce discours est beau, quelle chance j'ai d'être la personne qui aura reçu toute seule ce très beau discours de poète. Or, j'ai appris après par une autre amie, Mireille Sacotte, qui était allée le voir, elle aussi dans les mêmes conditions, elle préparait sa thèse. Je lui ai dit, moi j'ai eu beaucoup de chance, elle me dit, oh, ben, moi aussi je l'ai rencontré, qu'il racontait exactement la même chose. Elle m'a tenu le discours qu'il m'avait tenu. Alors ça m'a un peu déçu, mais je me suis dit en même temps, bon, c'est toujours bon à prendre, le discours d'un poète.
Il vous a naturellement parlé aussi de la nature dans ce paysage. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait des liens entre l'écologie d'aujourd'hui, et est-ce que ce pourrait être un des prophètes de l'écologie, de la défense de la nature?
Complètement. D'ailleurs, le mot écologie est dans un de ses poèmes, Oiseau. Donc, c'est important que ce mot, qui n'était pas quand même très, très connu à l'époque, soit déjà employé par lui.
Les pierres, chez Rakaïwa aussi, les oiseaux.
Les oiseaux. Et d'autre part, il est vraiment compétent. Moi, ce qui m'avait plu dans sa bibliothèque, c'est qu'il y a très peu de livres littéraires. Très peu. Il a, au fond, assez peu lu de romans, jamais, de poètes de son époque. En vérité, la masse des ouvrages de sa bibliothèque, ce sont des guides sur les oiseaux, les animaux, les plantes, les paysages, Il a gardé tous les petits guides de la nature qu'il a traversés et connus aux États-Unis. Il a passionnément aimé la nature aux États-Unis, car il y a toutes les natures aux États-Unis.
Il a beaucoup navigué, notamment sur la vaste chaussée océane.
La vaste chaussée océane. Il est allé jusqu'au Cap Horn. Donc il a vraiment le goût des voyages, le goût de la nature. Et c'est pas du. Je dirais, c'est pas de la pose, ça. Ça, c'est vraiment réel. Et
donc, il peut espérer trouver des lecteurs contemporains sur ce versant-là.
Oui, si on aime les oiseaux en particulier, il faut aller lire son œuvre. Il parle de la Ninga qu'il avait d'ailleurs rencontrée en Floride quand il y était. Dans le poème « Oiseau » qu'il a écrit en hommage à Braque, il décrit admirablement bien le squelette et le vol des oiseaux.
Une amitié tardive avec Braque, oui.
Mais amitié forte. Tardive avec Braque, qui lui-même, justement, peint des oiseaux. C'est un poète de l'air. C'est un poète de l'air. C'est que Bachelard fait des catégories comme cela, et lui, c'est un poète de l'air. Hein. Le poète des vents, s'il aime la mer, c'est aussi à cause de l'air qu'il y a au-dessus.
Alors, il faut que nous donnions une dernière fois à entendre la poésie de Saint-Jean Perse. Par-delà Alexis Léger, je vous offre un extrait de Chronique qui remonte à 1959. C'est son dernier grand poème, lu ici par l'admirable Michel Bouquet dans l'émission Belles Lettres de Robert Mallet, Pierre Cipriot et Pierre Barbier, le 1er novembre de l'an de grâce 1960.
Grand âge, nous voici. Et nos pas d'hommes vers l'issue. C'est assez d'engranger, il est temps d'éventer et d'honorer notre ère. Demain, les grands orages maraudeurs et l'éclair au travail. Le caducé du ciel descend marquer la terre de son chiffre. L'alliance est fondée. Ah, qu'une élite aussi se lève de très grands arbres sur la terre comme tribu de grandes âmes et qui nous tiennent en leur conseil. Et la sévérité du soir descende avec l'aveu de sa douceur sur les chemins de pierre brûlante éclairés de lavande. Frémissement alors à la plus haute tige engluée d'ambre de la plus haute feuille mi-déliée sur son onglet d'ivoire. Et nos actes s'éloignent dans leur verger d'éclairs. À d'autres d'édifier parmi les schistes et les laves. À d'autres de lever les marbres à la ville. Et nos pensées déjà se lèvent dans la nuit comme les hommes de grande tente avant le jour, qui marchent au ciel rouge, portant leur sel sur l'épaule gauche. Voici les lieux que nous laissons. Les fruits du sol sont sous nos murs, les eaux du ciel dans nos citernes, et les grandes meules de porphyre reposent sur le sable. L'offrande, ô nuit, où la porter ? Et la louange, la fier. Nous élevons à bout de bras sur le plat de nos mains, comme couvée d'ailes naissantes, ce cœur enténébré de l'homme où fut l'avide, et fut l'ardent, et tant d'amour irrévélé. Écoute, ô nuit, dans les préaux déserts et sous les arches solitaires, parmi les ruines saintes et les miettements des vieilles termitières, le grand pas souverain de l'âme centenière, comme aux dalles de bronze où rôderait un fauve. Grand âge, nous voici. Prenez mesure du cœur d'homme.
Grand âge, nous voici. Alexis Léger, Saint-Jean Perse, vieillard exemplaire, Henriette Le Villain.
Pour lui, c'est le grand âge. À l'époque, c'est le grand âge. Hein. Et il a fait en sorte, d'ailleurs, que la vieillesse ne soit pas une débâcle. C'est
un naufrage, vous pensez à De Gaulle,
à propos de Pétain. Il a voulu absolument se tenir droit, continuer à nager tous les jours dans la crique de Gien. Et il veut donc accueillir cet âge comme il a accueilli tous les événements difficiles de son existence, comme l'exil en particulier. Seulement, ce que je trouve très beau dans cet extrait que vous avez lu, c'est tout de même qu'il y a une certaine insatisfaction. Où la porter ? La louange, où la porter ? Et je pense que c'est la grande question qu'en vieillissant, il commence à se poser. Où est l'absolu ? Où est l'absolu ? Donc il n'y aura pas la réponse. Singe de Dieu, trêve à tes ruses, dira-t-il à la fin. Mais il y a tout de même une entité, un absolu, un divin, il emploie souvent le mot divin, qui est au-dessus de lui. Et cette insatisfaction, elle est exprimée d'ailleurs au mieux dans un de ses derniers poèmes qui s'appelle Nocturne, où il a reçu entre les mains le volume de la Pléiade, et il montre qu'il finalement, il a tant attendu de cet ouvrage, il y a tant travaillé, et au fond, il n'est pas satisfait.
Quand nous étions sur les bancs de l'université, je n'étais pas comme vous dans la filière littéraire, mais nous étions sensibles à cette tendance des spécialistes à affirmer la séparation nécessaire entre la vie et l'œuvre, contrairement au manuel qui nous avait précédé, la vie et l'œuvre. Est-ce qu'on en revient aujourd'hui, à propos de Saint-Jean de Perse, puisque nous avons consacré cette émission à une réflexion sur l'homme comme un double, Alexis Léger, Saint-Jean de Perse ?
Oui, à condition d'être très prudent. Il ne s'agit pas de trouver littéralement la vie dans l'œuvre. Bon, ce qui malheureusement a été fait par d'aucuns. Mais il s'agit de se poser la question, est-ce que d'abord l'œuvre a une assise concrète avec l'existence ? Oui, sans aucun doute, on l'a vu avec les Antilles, on l'a vu avec l'exil, on l'a vu avec la Chine, il y a une assise concrète. Le grand âge, c'est pas évidemment abstrait, le grand âge. Mais à condition aussi de considérer que l'œuvre construit la vie, et pas simplement redit la vie, qu'elle n'est pas une copie de la vie. Donc, se voir autre, et on revient un peu au double d'ailleurs, se revoir autre dans l'œuvre que ce que l'on est tout en sachant ce que l'on est, et vivre cet écart, c'est peut-être ça la manière dont un auteur aujourd'hui parle de sa vie, et comme cela que si on est à l'extérieur, on doit prudemment essayer de rapprocher la vie de l'œuvre.
Parfaite conclusion. Merci, merci Henriette Lévillain. Votre magnifique biographie s'appelle Saint-Jean de Perse, tout simplement. Elle est parue chez Fayard en 2013. Et puis, vous nous annoncez que vous préparez un dictionnaire Saint-Jean de Perse, ça va être un opus magnum, chez Champion, qui va paraître dans quelques mois avec Catherine Maillot. Vous êtes aussi une spécialiste de Marguerite Yourcenar. Et naturellement, nous qui donnons chaque semaine, à la fin de notre générique, la parole à celle-ci, nous y sommes très sensibles. Vous avez publié « Yourcenar, carte d'identité » chez Fayard en 2015. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète, il y a d'autres biographies importantes de Saint-Jean de Perse, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, changement de décor, nous parlerons du grand méchant loup, on s'approchera de Noël. Il peut y avoir un lien, peut-être. Et je recevrai pour cela Michel Pastoureau. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin. Il va consacrer sa semaine pour un motif qui ne vous échappera sûrement pas. Retour sur les révoltes fiscales, sur la violence et sur le maintien de l'ordre dans l'histoire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Élise Leu à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Sabine Dahuron pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.